imaginez qu'une nouvelle voisine s'installe à côté de chez vous. Elle est plutôt gentille, mais vous vous apercevez tout de suite qu'elle n'a pas vraiment les mêmes pratiques que vous. En discutant avec elle, vous vous apercevez qu'elle a plusieurs enfants, mais qu'aucun de ses enfants n'a le même père. Vous vous apercevez aussi qu'elle a une spiritualité un petit peu bizarre, faite d'un mélange de bouddhisme, de christianisme, de conversation avec les esprits. Quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle voisine aux mœurs et à la spiritualité bizarre ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Et on va essayer de répondre à cette question grâce à un passage biblique dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. C'est la célèbre conversation entre Jésus et la Samaritaine. Alors pour vous situer le contexte de ce passage, il faut savoir que Jésus et ses disciples vont de la Judée, c'est-à-dire le sud de la région, vers la Galilée, le nord de la région. Alors bien sûr, le plus court pour aller du sud vers le nord, c'est de passer par le centre, la Samarie. Mais le problème, c'est que les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas du tout. Aussi, les Juifs s'arrangeaient-ils pour contourner cette région. Jésus, lui, passe quand même par la Samarie, comme s'il voulait absolument rencontrer quelqu'un. Alors lisons ce passage dans Jean 4 à partir du verset 1. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond, d'où la tires-tu donc, ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de cette eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. « Je ne suis pas mariée, » lui répondit-elle. « Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. »« Maître, » répondit la femme, « je le vois, tu es un prophète. »« Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui répondit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » « Je suis le Messie, moi qui te parle, » lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. À première vue, il est très difficile de trouver un enchaînement logique à cet échange un petit peu surréaliste. On pourrait croire que Jésus fait tourner cette femme en bourrique. Mais à y regarder de plus près, il y a un sens à tout ça. La première partie de la conversation porte sur le thème de l'eau, et c'est normal. Il est midi, il fait très chaud, et cette femme vient au puits avec quelques heures de retard. Il faut rappeler que les autres femmes venaient le matin tôt, quand il faisait frais. Et bien sûr, Jésus a sûrement soif. Et Jésus joue tout de suite la carte du quiproquo entre l'eau du puits et l'eau vive qu'il propose. Alors l'eau du puits qui est plutôt stagnante, puisqu'elle est dans un puits, et une eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui coule de la rivière, on va dire l'eau courante. Au verset 15, on ne sait pas si la femme a bien compris ce que Jésus lui propose, l'eau vive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en a marre d'être obligée de venir puiser à l'heure la plus chaude de la journée. Et c'est là, devant ce ras-le-bol, que la parole de Jésus fait mouche. « Appelle ton mari. » On ne sait pas trop quel est le problème de cette femme. Est-ce que c'est une vie sexuelle très délurée ? Est-ce que c'est une vie sentimentale très difficile ? Est-ce que cette femme a été victime de plein de maris violents ou de maris qui l'ont maltraitée, qui l'ont répudiée ? En tout cas, c'est une vie très difficile qui oblige la Samaritaine à ne pas se mêler à la foule des autres femmes du village. C'est un petit peu la traînée, la femme à problème du village. Dans sa réponse, elle esquive en disant qu'elle n'est pas mariée, ce qui est un petit peu un mensonge par omission. Et quand Jésus lui montre qu'il connaît bien sûr son véritable « palmarès », avec des guillemets, elle rebondit surtout sur le côté prophète de Jésus, histoire de réorienter la conversation vers une question religieuse, et moins vers sa propre personne, vers sa propre vie. Elle a commencé à avoir l'habitude de ne plus parler trop d'elle, puisque sa vie est un petit peu en reconstruction, ou on va dire une vie un petit peu dévastée. Alors, Jésus recycle l'argument utilisé avec Nicodème. Adorer Dieu n'est pas une question de rite ou de lieu, mais c'est une question d'esprit, une question d'état d'esprit. Et ça débouche, comme avec Nicodème, sur la question de l'identité de Jésus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme avec Nicodème, on va résumer un petit peu l'enchaînement des sujets dans la conversation. Et vous allez voir que c'est un petit peu les montagnes russes dans cette conversation avec la Samaritaine. Ça commence avec Jésus qui demande « Donne-moi à boire ». La Samaritaine répond « Je suis Samaritaine et tu me parles ?» Jésus répond « Tu devrais me demander à boire. » La Samaritaine « Tu n'as pas de seau. » Jésus « Je peux te donner une autre sorte d'eau, une eau qui étanche éternellement la soif. » La Samaritaine: « J'en veux, comme ça je n'aurai plus à venir ici. » Jésus: « Va chercher ton mari. » La Samaritaine: « J'en ai pas. » Jésus: « Tu as 5 maris et 1 concubin. Tu as dit vrai. » La Samaritaine: « T'es prophète ? Alors, où doit-on adorer ?» Jésus: « Dieu cherche des orateurs en esprit et en vérité. » La Samaritaine: « Le Messie nous expliquera tout ça un jour. » Jésus: « C'est moi le Messie. » Comme vous l'avez peut-être remarqué, entre l'accroche de Jésus, qui demande à boire, et sa dernière parole, « C'est moi le Messie », c'est une ligne droite qui mène vers son identité messianique. Et au centre de cette ligne droite, au centre de cette trajectoire, il y a le verset pivot, c'est-à-dire le verset 15, où la Samaritaine lui dit « Donne-moi toujours de cette eau-là que je n'ai plus à venir à ce puits en pleine chaleur. » Et la question qui tue de Jésus au verset 16 « Va chercher ton mari. » C'est ça qui est au centre du récit. On peut remarquer que Jésus aurait pu s'attarder sur la rivalité entre les Juifs et les Samaritains. C'est une rivalité qui date de plusieurs siècles, où vous vous rappelez peut-être, hein, dans le livre d'Esdras, les Samaritains ont empêché les Juifs de reconstruire le temple à Jérusalem. Ils ont posé des problèmes, donc bien sûr il y a une rivalité entre les deux peuples. Et puis un peu plus tard, un juif qui s'appelle Jean Hyrcan va détruire le temple que les Samaritains avaient construit sur le mont Garizim, et le temple dont parle la femme samaritaine quand elle dit à Jésus: est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne-là, la montagne avec les ruines du temple du mont Garizim détruit par les Juifs, ou est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem, là où il y a le temple construit par les Juifs? Jésus aurait pu s'attarder sur cette rivalité, mais il ne le fait pas. Jésus aurait pu aussi s'attarder sur la question de l'adultère, ou la question de ce concubinage que cette Samaritaine est en train de vivre avec ce sixième homme. Mais il ne le fait pas non plus. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Parce que la rivalité juif-samaritain, ou la question conjugale de cette Samaritaine, ne sont pas des sujets qui sont plus importants que le sujet principal que Jésus veut traiter. C'est le sujet de son identité messianique. Il veut vraiment traiter en priorité ce sujet-là, parce que c'est ce sujet-là qui peut sauver la vie de cette Samaritaine. Il faut aussi noter qu'après notre passage, dans les versets 31 à 34, Jésus va reproduire avec ses disciples le même stratagème qu'avec la Samaritaine. Avec la Samaritaine, c'est le stratagème de l'eau. Hein. Normalement, il devrait recevoir de l'eau parce qu'il a soif, mais c'est lui qui propose de l'eau. Dans les versets 31 à 34, les disciples reviennent de Sichar avec des provisions. Ils proposent à Jésus de manger. Et Jésus leur dit: j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples se demandent: est-ce que quelqu'un lui a donné à manger entre-temps ? Et Jésus leur dit: ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté du Père. Un peu la même construction qu'avec avec la Samaritaine. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette conversation entre Jésus et la Samaritaine? Alors le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que Jésus connaît et comble les besoins profonds de l'être humain, comme il l'a fait avec la Samaritaine. Il connaît les besoins profonds de la Samaritaine et il veut les combler. Les besoins profonds de l'être humain sont tous les mêmes. On ressemble tous plus ou moins à cette Samaritaine, même si on n'a pas la même vie qu'elle. Les besoins profonds de l'être humain, c'est la culpabilité. La culpabilité d'avoir fait des choses mauvaises ou de ne pas avoir fait d'autres choses. Les besoins de l'être humain, c'est d'avoir une communion avec Dieu. C'est la recherche du bonheur. C'est la peur de l'avenir. C'est les relations plus ou moins problématiques avec les autres. Jésus connaît ses besoins. Jésus connaît nos vies et il veut les combler. Il veut les combler. Nous rendre heureux. Et comment s'y prend-il pour nous rendre heureux? Eh bien, il se fait connaître à nous. On pourrait penser que pour être heureux, pour que notre soif soit étanchée, eh bien, il faudrait finalement que Dieu, eh bien, nous donne ce dont nous avons besoin. Nous avons un besoin et Dieu le comble. Jésus ne s'y prend pas comme ça. Dans ce passage, il y a l'enseignement central. C'est que pour être heureux, il faut connaître Jésus. C'est avec Jésus qu'on peut découvrir le vrai bonheur. Tout doit passer par lui, tout commence par lui. Après, il pourra combler les autres besoins, les besoins secondaires, mais notre besoin primaire, notre besoin de bonheur, de communion avec Dieu, pour ne plus avoir peur de l'avenir, pour ne plus avoir peur des autres, pour ne plus nous sentir coupables, c'est avant tout de connaître Jésus, le Fils de Dieu. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cette histoire, de cette conversation, c'est qu'on n'adore pas Dieu n'importe comment. C'est en esprit et dans la vérité qu'on adore Dieu. C'est-à-dire spirituellement, c'est-à-dire sincèrement, c'est-à-dire profondément. Et cela s'oppose à un culte purement formel, dans un lieu saint, un lieu, vous voyez, défini, avec un Dieu limité. Non, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est pour ça que la question de la Samaritaine tombe à plat en demandant si c'est sur le mont Garizim avec le temple des Samaritains ou à Jérusalem avec le temple des Juifs qu'il faut adorer. Eh bien, Jésus lui répond, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'adorer Dieu spirituellement. Et pour adorer Dieu spirituellement, eh bien justement, il faut l'adorer au travers de Jésus, par le sacrifice de Jésus. C'est une nouvelle ère que Jésus va instaurer. Adorer Dieu, c'est partout, tout le temps et par tous les moyens autorisés par lui-même. Vraiment, c'est une nouvelle ère qui est ouverte. On peut vraiment maintenant adorer Dieu avec le Saint-Esprit que Jésus a envoyé quand il est monté à la droite de son Père. Alors que certains sont perdus dans une religion formaliste, dans des rituels un peu secs, un peu froids, qui n'apportent rien finalement comme chaleur pour l'âme, alors que d'autres à l'opposé sont un peu perdus dans tout et n'importe quoi, dans l'adoration de certains esprits qui prennent un peu de toutes les religions, Jésus vient apporter une réponse claire. Il faut l'adorer, lui, par le Saint-Esprit. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer de cette conversation, c'est que personne n'est trop pourri pour être sauvé par Jésus. La Samaritaine est une hérétique aux yeux des Juifs. Et Jésus lui rappelle, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous les Samaritains, le salut vient des Juifs. Donc il lui rappelle quand même qu'elle est une hérétique par rapport aux Juifs. Et il faut rappeler que les Samaritains avaient une religion qui ne retenait que le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, et c'était une religion qui était bigarrée, qui était mélangée avec d'autres religions. Donc ils étaient vraiment des hérétiques. Mais la Samaritaine était aussi une débauchée, ou si on veut être moins sévère, quelqu'un qui avait eu une vie assez rocambolesque, avec des maris qu'il avait répudiés plusieurs fois. Mais il faut rappeler que c'est elle que Jésus choisit d'utiliser pour se révéler à la ville de Sichar. C'est grâce à elle que les habitants vont venir à Jésus et vont entendre son enseignement. Et c'est quand même quelque chose de très très important à rappeler. Personne n'est trop éloigné de Dieu pour être sauvé par lui. Et j'ai même envie de dire, Jésus choisit souvent des personnes qui sont très très loin, des personnes qui sont très très malades, pour les guérir et pour les utiliser. Et c'est un espoir extraordinaire pour toute personne qui a fait des grosses bêtises dans sa vie, ou qui a connu plein d'accidents qui lui ont fait croire qu'elle était nulle. Personne n'est trop nul pour être accepté par Jésus, pour faire appel à Jésus, pour être sauvé par Jésus. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on peut essayer de regarder quels sont les exemples qu'on pourrait tirer de cette conversation. Comment est-ce qu'on peut imiter Jésus dans notre vie? Et je reviens à l'exemple de la voisine qui s'est installée à côté de chez nous et qui est un petit peu bizarre, un peu trop différente de nous. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette discussion entre la Samaritaine et Jésus est très ressemblante de celle que nous avons parfois. Chacun rebondit sur le propos de l'autre et d'enchaînement en enchaînement, on arrive à un point très éloigné du sujet de départ. C'est un peu des conversations comme ça qui nous tournent la tête et on ne sait même plus d'ailleurs par où on a commencé. Dans une conversation à propos de la foi, il y a plein de fausses pistes lancées par nos interlocuteurs. Et on peut se rappeler que la Samaritaine lance des fausses pistes. Elle lance la fausse piste de la mauvaise relation entre les Juifs et les Samaritains. Elle lance la fausse piste du lieu où on doit adorer. Mais à chaque fois, Jésus recentre les choses. Et je pense que nous devons faire de même. Devant les fausses pistes que nos interlocuteurs nous lancent, à nous de bien garder le cap sur l'essentiel. Les discussions sur la différence entre les catholiques et les protestants. La fameuse question « si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Est-ce que Jésus a été marié? Est-ce qu'il a eu des enfants? Ces choses, ces sujets sont certes très intéressants. Mais il nous faut nous rappeler qu'ils sont bien moins importants que celui de la seigneurie de Jésus, l'identité de Jésus. Annoncer l'évangile, ce n'est pas se contenter de parler de questions métaphysiques, de questions spirituelles, de Dieu dans un sens général. Souvent, nous nous contentons de ça. Non, avoir une véritable discussion spirituelle, annoncer l'évangile, c'est parler de Jésus. Retenons vraiment ça. Annoncer l'évangile, c'est parler d'une personne physique qui a une personnalité, une personne avec qui nous avons une relation, et cette personne s'appelle Jésus. La plupart des réponses que nous devons donner aux questions que nous posent nos contemporains tiennent en un seul nom, Jésus. Il faudra bien sûr développer. Jésus n'est pas un mot magique qu'il faut sortir comme ça en s'attendant à avoir des résultats extraordinaires. Mais, même s'il faut développer, il faut avant tout le dire. Il faut avant tout présenter qui est Jésus. Le deuxième exemple que nous pouvons tirer de cette conversation entre la Samaritaine et Jésus, c'est qu'il faut que nous soyons persuadés que nous avons quelque chose de capital à apporter à ceux qui sont autour de nous. Si Jésus comble vraiment les besoins vitaux de l'homme, de l'être humain, nous assurons un service d'utilité publique en l'annonçant, en présentant qui il est. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur continue de nous combler et le Seigneur veut nous faire du bien, ainsi qu'à nos proches. Alors, pourquoi hésiter à parler de lui? Il est puissant. Il peut tout changer. Et nous le chantons et nous le confessons. Nous le disons quand nous sommes entre chrétiens. Alors, s'il est puissant, s'il peut tout changer, s'il a fait des choses aussi merveilleuses pour nous, nous devons lui faire confiance et aimer assez nos amis, notre entourage, pour leur dire qu'il est la solution à tous leurs problèmes. Bien sûr, il faudra développer, mais avant tout leur dire que s'ils veulent être heureux durablement, il faut connaître Jésus, la personne la plus importante, l'homme le plus important de toute l'humanité et de tout l'univers. Ayons ce courage-là, ça peut sauver des vies. Le troisième et dernier exemple que nous pouvons tirer de cette conversation, c'est qu'il faut que nous montrions les limites des religions personnelles. La plupart des gens que nous connaissons, même s'ils n'ont pas une religion officielle, et c'est maintenant la majorité des personnes en France, eh bien, ils ont une certaine foi en quelque chose. Cela peut être dame nature, cela peut être une foi en l'homme, cela peut être une lecture régulière de leur horoscope, un dieu syncrétique, c'est-à-dire un dieu qui est fait avec des bouts de bouddhisme, des bouts de christianisme, des bouts de plein d'autres choses, de plein de religions. Un dieu qui est mélangé avec des divinités orientales, avec le dieu biblique. Bref, notre travail consiste à mettre en concurrence ses croyances et le Seigneur Jésus. Normalement, si vous mettez en concurrence ses croyances et le Seigneur Jésus, Jésus gagne à chaque fois. En tout cas, au niveau de l'argumentation. Je ne vous promets pas que vous allez à chaque fois convaincre votre interlocuteur, mais au niveau de l'argumentation, au niveau du pourquoi est-ce qu'on doit croire, Jésus gagne à chaque fois. Aujourd'hui, les gens choisissent leurs convictions religieuses en fonction de ce que ça leur apporte, des besoins que ces convictions comblent. C'est sur ce terrain-là que nous devons démontrer la supériorité absolue de Jésus et de l'action du Saint-Esprit. Jésus est le seul à donner des vraies réponses, des réponses qui comblent durablement les besoins intellectuels et les besoins spirituels de nos contemporains. Le Saint-Esprit est le seul qui comble nos besoins affectifs, nos besoins spirituels, qui nous persuade que nous pouvons être en paix et que nous sommes en paix avec le Père. C'est le seul qui peut nous montrer le chemin à suivre, qui peut nous faire du bien, qui peut nous faire progresser. Cette relation intime que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit est une relation unique que nos contemporains ne peuvent même pas imaginer. À nous de leur raconter à quel point nous sommes heureux d'avoir cette relation unique avec le Dieu trinitaire. Et je finis et je conclue avec cette question du témoignage. Vraiment, osons dire notre relation avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Nous pouvons le dire avec nos mots, nous pouvons le dire avec certaines maladresses, mais il ne faut pas s'inquiéter car le Saint-Esprit agit aussi dans le cœur de nos interlocuteurs. N'ayons pas peur et retenons toujours cette ligne droite de l'identité de Jésus. Présentons notre meilleur ami, présentons celui qui nous a sauvés, notre sauveur, qui s'appelle Jésus, et laissons-le faire le reste, comme il l'a fait avec cette Samaritaine. Finissons avec notre voisine, qui vient de s'installer à côté de chez nous. Eh bien, discutons simplement avec elle. Discutons de ses besoins, discutons de sa vie. Et présentons-lui notre foi, présentons-lui Jésus, et ne la jugeons pas. N'ayons pas des sujets qui vont la gêner, qui vont la montrer du doigt, ou qui vont peut-être montrer aussi que nous sommes des personnes extraordinaires, ce qui est totalement faux. Parlons-lui de Jésus, et voyons sa réaction. Car dans mon expérience, ceux qui se reconnaissent malades, ceux qui reconnaissent avoir des besoins, sont très très contentes d'entendre parler d'un médecin qui peut les guérir. Il s'appelle Jésus. Et nous sommes ses porte-paroles.